Il est 21h passées de quelques secondes, voici le traditionnel rendez-vous des curieux et des passionnés de littérature et de lecture. C'est Wagon Livre, nous sommes ensemble jusqu'à 22h et c'est sur Radion. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, ce soir, le récit vivant du destin d'un homme extraordinaire. En effet, notre invité, membre de l'Académie française, nous présentera son dernier ouvrage intitulé « Napoléon ou la destinée » paru chez Gallimard. Je vous en dis plus dans quelques secondes. Sachez qu'aux alentours de 21h40, je vous proposerai un entretien avec Jean Lacoste, germaniste et philosophe, qui a établi aux éditions Bartilla le journal inédit de Romain Rolland couvrant les années 1938-1944, c'est-à-dire les années au cours desquelles le prix Nobel de littérature 1915 et sa femme ont vécu à Vézelay, dans la maison qui aujourd'hui abrite le musée Zervos. Mais on en parle vers 21h40. Notre wagon livre de ce soir donne la parole à l'écrivain Jean-Marie Roire, qui va évoquer un Napoléon peu connu, celui qui se trouve au bord du gouffre, frôlant sans cesse la catastrophe et qui s'efforce de déchiffrer sa destinée. Il s'agit d'un entretien enregistré en octobre dernier, alors que l'académicien était reçu par le Club des écrivains de Bourgogne à Dijon. J'ai d'abord demandé à Jean-Marie Roire pour quelles raisons il avait choisi d'aborder le destin de Napoléon à travers ses doutes et ses échecs.
Écoutez, c'est une tentative d'expliquer l'inexplicable, d'expliquer le mystère Napoléon, d'expliquer cette sorte de religion que chacun nourrit en France, à l'étranger, pour Napoléon. Et je me suis rendu compte qu'au fond, chacun s'identifiait à Napoléon et s'identifiait à lui, pas tellement à cause de ses succès, mais surtout à cause de ses échecs. Ce sont ces échecs qui créent cette proximité avec chacun et qui permet justement de trouver en lui une sorte de réconfort. Voilà, une sorte de réconfort parce que quelqu'un qui a autant échoué, mais qui a en même temps autant réussi, eh bien, ça permet, dans les moments de désarroi, ça permet de retrouver une énergie, une orientation.
Et donc, c'est une expérience pour vous toute personnelle. Vous avez connu des moments de
désarroi. Oui. Alors, je donne souvent cet exemple. Je dis qu'à l'âge de 18 ans, eh bien, alors que je connaissais beaucoup d'échecs scolaires, l'échec de mon premier roman, qui avait été refusé par 13 éditeurs, et ma petite amie me trompait. Et elle me trompait avec un imbécile, en plus. Ce qui est souvent le cas, d'ailleurs. Les femmes vous trompent toujours avec des imbéciles. Je ne sais pas pourquoi. Et là, eh bien, je me suis dit, oui, mais comme Napoléon a été trompé. Et au fond...
Mais vous n'avez pas pensé au suicide comme Napoléon?
Si, j'ai pensé. Hélas, j'ai également pensé...
Joséphine le trompait.
Hélas, j'ai également pensé au suicide à ce moment-là. Mais et j'ai évoqué tout cela, d'ailleurs. J'ai évoqué à la fois la tentative de suicide de Napoléon, mais disons, cette mauvaise inspiration noire qui m'a, à l'âge de 18 ans, 19 ans, et dans un livre qui s'appelle « Les anges choisis la nuit ». Mais je dois dire, surtout ce qui m'a intéressé, c'est, à travers cet échec, c'est de me dire, voilà, j'ai une des clés qui me permet, et qui me permet de comprendre la fascination que Napoléon a exercée sur moi. Et toute ma vie, j'ai réfléchi à cet aspect, si vous voulez, de Napoléon, et ça a abouti à ce livre. Ce livre qui est peut-être, c'est en cela qu'il est original, si vous voulez, c'est que les historiens n'avait jamais abordé les échecs de Napoléon. Il voyait une suite de succès qui parvenait jusqu'à Waterloo, mais jamais il n'avait évoqué l'ensemble de ses échecs, et ses échecs personnels, affectifs, mais également des échecs à l'intérieur de ses succès. Par exemple, à Marengo, Marengo a failli être une catastrophe et un échec militaire. C'est la même chose pour Arcole. Voilà, il y a un certain nombre de batailles qu'on présente comme des victoires éclatantes et qui ont été sur le bord d'être des échecs.
Oui, on a un peu trop doré la légende. On a parfois...
C'est-à-dire que les historiens, et c'est pourquoi moi je ne suis pas un historien, je ne me prétends pas être un historien.
Mais vous êtes académicien.
Ah oui, mais c'est pas...
Ça vous donne peut-être quelques droits.
Oui, non. Je pense que ce que j'espère être, c'est un écrivain. Et un écrivain, je crois, peut apporter à l'histoire des éléments de compréhension de cette histoire, des éléments que n'apportent pas les historiens. Et j'ai un grand devancier que j'admire, qui est Stefan Zweig. Stefan Zweig a évoqué beaucoup de personnages historiques. Il a évoqué Marie-Antoinette, il a évoqué Magellan, il a évoqué Marie Stuart, Fouché. Et à chaque fois, il a apporté quelque chose que les historiens n'apportaient pas. Voilà. Donc il faut que chacun reste dans son rôle. Moi, je serais déjà très content d'être considéré comme un écrivain. C'est déjà formidable d'être un écrivain. Mais je suis un écrivain qui tente justement d'éclairer l'histoire, peut-être aussi un peu par le style, parce que vous avez remarqué, mais quelquefois les historiens sont quand même très arides. Et puis ils ont tendance maintenant, surtout aujourd'hui, à parler pour les autres universitaires. Et moi, j'ai essayé de ce point de vue-là. Il n'y a pas de notes dans mon livre. Voilà, on ne se perd pas dans les notes. Je pense que les lecteurs me font confiance. C'est un livre, de ce point de vue, sérieux, mais pas ennuyeux. Voilà, j'ai voulu faire un livre qui était avec une certaine légèreté, cette légèreté qui est dans la tradition française. On essaie d'instruire en amusant.
On retrouve Jean-Marie Roir dans une poignée de minutes. Première escale en chanson. Nous écoutons Serge Lama et son Napoleone. Bonne soirée sur Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h.
J'étais gamin, mon nom ne sonnait pas bien français. J'étais la risée des copains, ils m'appelaient la paillonnée. Mal fringué dans ma peau pas bien, j'étais bande à part et boudeur. Je bouffais les mots des bouquins, j'avais l'âme et la tête ailleurs. Napoléon et la paillonnée. Je m'imaginais que César, je m'imaginais qu'Alexandre, dans des conquêtes de bazar, venait m'inspirer dans ma chambre. Avec mes mains derrière le dos, j'étais furieux, j'étais fiévreux, je portais déjà mon chapeau et j'étais déjà malheureux. Napoléon et Napoléon. Devant le siège de Toulon, anodi comme au pont d'Arcole, toujours, toujours Napoléon se rappellera qu'à l'école. À l'école, quand j'étais gamin, mon nom sonnait pas bien français. J'étais la risée des copains, ils m'appelaient la baïonnée. Napoléon.
Serge Lama et son Napoléoné sur Radion. On retrouve Jean-Marie Roir de l'Académie française et son essai paru chez Gallimard intitulé Napoléon ou la destinée. Alors Jean-Marie Roir, à vous lire, on se rend compte que Napoléon avait le sentiment très fort d'avoir, comme le général de Gaulle, rendez-vous avec le peuple de France.
Oui, ça je crois que profondément, il avait ce sentiment d'un rendez-vous avec l'histoire, et particulièrement d'un rendez-vous avec la France. Et d'ailleurs, ça a été réciproque, parce que les Français aussi se sont bien rendus compte que c'était un rendez-vous extraordinaire, je dirais même merveilleux. Il leur a apporté quelque chose de merveilleux. Alors, il leur a apporté des choses concrètes, il a apporté des institutions, il a apporté l'ordre, il a apporté
le code civil,
et puis il a apporté la sécurité, alors que tout le monde, à ce moment-là, chacun était en péril dans sa propre famille, sur les routes, enfin, c'était effrayant. Et en même temps, je crois qu'il a apporté du merveilleux, il a fait rêver. La campagne d'Égypte, qui est pourtant un échec, eh bien, ça continue de faire rêver le fait qu'un homme parte avec la moitié de l'Institut, avec des savants, et qu'il aille aux pyramides, et qu'il s'échappe, revienne en France. Eh bien, tout ça avec des mamelouks, tout ça fait rêver. Et je pense que, vous savez, il le disait lui-même, « Je fais mes plans de campagne avec les rêves de mes soldats endormis ». Eh bien, je pense que ce rêve, eh bien, fait partie maintenant de l'histoire de France, et que les Français lui sont reconnaissants. Et vous pouvez voir qu'à toutes les périodes de l'histoire de France, il y a un regain d'intérêt pour Napoléon.
Vous parlez de merveilleux. C'est vrai que c'est aussi un peu une épopée. Il y a des aspects merveilleux dans cette épopée napoléonienne. Et d'ailleurs, Hugo, vous le rappelez, Hugo l'appelait l'homme miracle.
Oui, c'est un homme qui est à la marge de la réalité et du rêve. D'ailleurs, lui-même, ce qui était une sorte de polytechnicien, de mathématicien extrêmement doué, hein, puisqu'il a été élu à l'Institut dans la classe de mathématiques, était en même temps un homme qui avait des intuitions, des voyances, qui faisait des prédictions. Ainsi, à un moment, en Égypte, eh bien, il y a son secrétaire, qui s'appelle Bourrienne, qui vient lui dire qu'un général a refusé de lui serrer la main parce qu'il avait
peur de la peste.
Il avait peur d'attraper la peste. Oui. Et Bonaparte lui dit, le malheureux, il va en mourir. Et un mois plus tard, le général meurt. Vous voyez. Donc il a des intuitions comme ça, extraordinaires. Et il y a un côté irrationnel, un côté, si vous voulez, de cet homme qui, au fond, très superstitieux, il avait très peur du chiffre 13, du vendredi 13... Et en même temps, c'est, vous voyez, un homme très réaliste et un homme complètement dans l'irrationnel. Et en même temps, un autre mélange, c'est un homme très réaliste et un homme très idéaliste. Et d'ailleurs, Goethe, qu'il va rencontrer à Fürth, va dire « C'est un homme qui se prend pour un réaliste, alors qu'en fait, c'est surtout un idéaliste. »
Ce qui est magnifique aussi, c'est qu'on a le sentiment que Napoléon a bénéficié d'une grâce, quoi. Que si c'est pas les fées qui se sont penchées sur son berceau en Corse, en tout cas, il est né avec la grâce. C'est une sorte de presque théorie de la prédestination, en enlevant peut-être l'aspect religieux.
Oui, il est né d'abord avec une sorte d'autorité naturelle, ce que sa mère, Laetitia, qui a joué un très grand rôle, a appelé l'esprit de principauté. C'est que tout de suite, mais vers l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans, on a vu que ses parents ont vu que c'était un chef. Voilà. Et immédiatement, par son goût pour l'étude, un goût acharné, c'est un homme qui va lire dans son adolescence une multitude d'ouvrages.
Il lit Rousseau, Voltaire. Finalement, il est dans l'esprit des Lumières.
Il
quand
est
même,
très, très cultivé. Mais pas seulement dans l'esprit des Lumières. Il va également lire tous les auteurs de l'Antiquité et également un livre que toute sa vie il va méditer et relire, ce qui est la vie des hommes illustres de Plutarque. Et je crois que c'est de là que vient son amour de la gloire, c'est ce qui lui a inspiré son désir d'être lui aussi un grand homme. D'ailleurs, vous savez, il disait « Tout le monde aimerait mourir assassiné à la condition d'être César ». Ce qui montrait vraiment que son état d'esprit, c'était d'accord d'assurer sa légitimité, mais ensuite sa place dans la postérité. C'est ce qui comptait pour lui.
Finalement, il n'y a pas eu, et vous en parlez dans votre Napoléon ou la destinée chez Gallimard, il n'y a pas eu d'écrivain qui écrira au jour le jour le règne de l'empereur. Chateaubriand était finalement un concurrent à la gloire également, Et puis Chateaubriand était royaliste, donc il ne pouvait pas spécialement se ranger du côté d'un Napoléon qui reste quand même une figure républicaine.
Il a beaucoup changé, Chateaubriand. Hein. Il y a eu beaucoup d'opportunisme au début, et puis ensuite une autre forme d'opportunisme qui a été de jouer la chute de l'Empire. Et puis il est redevenu napoléonien. Il est devenu napoléonien quand il a revu ce formidable renouveau après la mort de l'empereur et l'apparition du mémorial de Sainte-Hélène. Et à ce moment-là, il y a eu en France une sorte de nostalgie, mais frénétique de Napoléon. Alors Chateaubriand change un peu d'avis, et c'est là où il va dire cette fameuse phrase « Vivant, il a manqué le monde, mort, il le possède ».
Et finalement, il faut quand même attendre que l'empereur meure en 1821. Il faut attendre sa mort pour que, quelque part, il inspire vraiment les romanciers, que les romanciers viennent un petit peu revivifier le mythe napoléonien.
Oh, mais les romanciers vont être complètement obsédés par le mythe napoléonien. Ça va commencer avec Stendhal, tous les héros de Stendhal, Julien Sorel, Fabrice Dendongo...
Le comte Mosca aussi qui a inspiré Metternich, c'est quand même aussi l'univers napoléonien.
Tout à fait. Et ensuite Balzac. C'est vrai que Balzac, tous les héros de Balzac sont des succès d'années de Napoléon. Et d'ailleurs, Balzac dira qu'il faut être le Napoléon de quelque chose. Je crois que Napoléon inspire aux romanciers une formidable énergie qui va se développer pendant tout le XIXe siècle. D'autant plus que on est rentré dans le siècle de l'ambition. Le XVIIIe siècle, c'était le siècle des privilèges, du privilège de la naissance. Il n'y avait pas beaucoup, on n'avait pas beaucoup de possibilités de progresser dans la société. Il y a certaines personnes qui ont pu progresser comme bon marché. Mais enfin, en général, les gens restaient à leur place. Tandis que subitement, il va y avoir ce formidable appel d'air qui suit la Révolution, et les gens vont se chercher un modèle, et ce modèle va être retrouvé. C'est Napoléon. C'est Napoléon, un homme qui fascine les hommes, les femmes, et qui surtout est un modèle d'énergie et un modèle d'endurance, un modèle aussi d'homme qui affronte les difficultés. Voilà, je crois que c'est ça, ce qu'on a retenu de Napoléon, c'est cette formidable capacité à affronter les difficultés dans ses échecs personnels, mais aussi à Sainte-Hélène, parce qu'il ne va pas quand même passer 6 années à Sainte-Hélène dans des conditions épouvantables d'humiliation.
Et là, il n'est plus à Sainte-Hélène, il n'est plus dans l'action. Là, il découvre un compagnon horrible qui est, vous le dites, c'est l'ennui. Quand bien même il a Las Casas qui écrit la Bible des Napoléoniens, finalement, Napoléon finit... D'ailleurs, vous l'appelez le Prométhée enchaîné. C'est bien l'homme seul,
tout à fait, mais en même
trahi
temps...
par tous, abandonné par toutes ses maîtresses, même s'il y en a quelques-unes sur l'île.
Mais je pense que lui-même, qui a toujours su tiré parti des circonstances, se rend compte que finalement cet exil à Sainte-Hélène va servir sa gloire. Parce que finalement, il serait mort dans sa toute-puissance, il aurait gardé l'image d'un tyran, d'un despote, et mourant à Sainte-Hélène, humilié, torturé, finalement il va attirer vers lui la sympathie et la culpabilité, parce que les peuples vont se sentir coupables d'avoir maltraité un aussi grand génie. Et il se rend compte que finalement, cette relégation le sert pour la postérité. Et c'est vrai que ça va le servir énormément, parce qu'il va sculpter un peu sa statue posthume, et surtout, il va apparaître, comme vous le disiez, l'apôtre de la République, des valeurs républicaines. Bien sûr, l'apôtre du mérite. Mais on pourrait dire que toutes les valeurs républicaines qui ensuite vont essaimer à travers l'Europe, eh bien, elles viennent de Sainte-Hélène. Et d'ailleurs, Hudson Love en a très peur de cette image qui se développe.
Il faut le dire, il faut expliquer aux auditrices et auditeurs que Hudson Love, donc, c'est le gouverneur de l'île de Sainte-Hélène, voilà. C'est le geôlier chargé par les Anglais d'observer les faits et gestes de Napoléon en captivité sur cette île.
Et qui est un personnage tatillon, atroce, qui l'embête, qui ne veut pas l'appeler l'empereur, mais qui l'appelle le général Bonaparte. Alors, Bonaparte fait son nom de pas avoir entendu, parce que il ne veut pas répondre à cette appellation. Et ce personnage tatillon eh bien, est obsédé par une chose, c'est par toutes ces lettres qui partent de Sainte-Hélène et qui vont révéler au monde les conditions de sa relégation. Et cette légende qui de plus en plus enfle au fur et à mesure qu'on apprend les mauvais traitements que subit l'empereur, eh bien, et la légende augmente. Et ça, le bouquet, ça va être bien entendu le manuscrit de Lascaz, qui est un compagnon de détention de Napoléon, et qui va publier le Mémorial de Sainte-Hélène, dans lequel on voit Napoléon qui parle de son action, de son... sa philosophie. C'est un Napoléon extrêmement proche et assez sympathique. C'est pas du tout le Napoléon, justement, autocrate. C'est le Napoléon assez proche des hommes. Et c'est vrai qu'il y a cet aspect qui explique aussi le fait que les Français adoraient Napoléon. C'est que c'est pas un homme hautain, distant. C'est un homme... Certes, c'est un pouvoir fort, mais avec ses soldats, avec les gens du peuple. C'est un homme très proche de la vie quotidienne. Des gens est très soucieux de leur venir en aide. Voilà, à chaque fois, c'est un homme très généreux et qui n'a aucun mépris social. C'est un homme, vraiment, de ce point de vue-là, je pense que les Français lui sentent que c'était vraiment quelqu'un de proche, quelqu'un qui avait à cœur d'améliorer leurs conditions.
On poursuit notre conversation dans quelques minutes autour de la personnalité hors norme de Napoléon en compagnie de Jean-Marie Roire de l'Académie française qui est ce soir devant notre micro sur Radion. Voici Napoléon, interprété cette fois-ci par Nicolas Perrac.
Un jour se lève sur l'empereur et son exil à Sainte-Hélène, Napoléon dans sa piscine finit son crème, bien à l'abri de Joséphine, Joséphine. Du bout des doigts, une Anglaise lui masse les reins, la chaîne 3 passe un film sur les Indiens très loin de là. Ça révolutionne à Pékin, à Pékin. La tête à l'envers, ça change les idées. Pour vivre à l'envers, faudrait pas me pousser. Tu finis ton verre, je finis mon café. J'arrive à temps, moi. Un jour se lève sur le bleu de l'éternité à Sainte-Hélène, c'est le club méditerranéen et sur ses lèvres l'Anglaise dépose un baiser, un baiser. Vive la France et vive le Royaume-Uni, sa peau est blanche sous les doigts du petit génie ronde et sa hanche. Ça vaut les femmes de Paris, de Paris. La tête à l'envers, ça change les idées. Pour vivre à l'envers, faudrait pas me pousser. Tu finis ton verre, je finis mon café. J'arrive à temps, moi. Un jour se lève sur notre vie de tous les jours un peu de rêve, et la vie change de contour, ton Sainte-Hélène réinvente le chaque jour, la tête à l'envers, ça change les idées, pour vivre à l'envers, faudrait pas me pousser, tu finis ton verre, je finis mon café. J'arrive à temps, moi. La tête à l'envers, ça change les idées. Pour vivre à l'envers, faudrait pas me pousser. Tu finis ton verre, je finis mon café. J'arrive à temps, moi. La tête à l'envers, ça change les idées. Pour vivre à l'envers, faudrait pas me pousser. deux. Tu finis ton verre, je finis mon café. J'arrive à ton moi.
Nicolas Perrac, à l'instant sur votre radio locale. Napoléon ou la destinée de Jean-Marie Roire nous occupe ce soir à bord de Wagon Livre. Un empereur, Jean-Marie Roire, qui se montre proche de ses soldats et qui avait à cœur d'améliorer leurs conditions. Et en effet, après les batailles, dans votre livre, vous l'expliquez, on voit Napoléon allant au secours de ses propres soldats blessés au combat. Néanmoins, il y a une grande ambiguïté chez cet homme.
Bien, c'est les deux, parce que c'est vrai qu'il y a une ambiguïté chez lui, il y a quelquefois une grande indifférence devant la mort des soldats, mais il est obligé, vous savez, les chefs militaires sont obligés de ne pas être trop sentimentaux et affectifs, parce que sinon ils ne pourraient pas diriger les batailles. Mais en même temps, de temps en temps, il y a, c'est vrai, une sorte de tendresse pour ces soldats, et puis il y a cette sorte d'étrange compassion auprès vis-à-vis des jeunes gens, y compris ceux qui ont tenté de l'assassiner. C'est le cas de Staps à Vienne en 1809, qu'on a trouvé avec un grand couteau qui était prêt à tuer l'empereur. Et l'empereur passe 2 heures avec son état-major, il est là à interroger Staps, à lui dire « Mais pourquoi tu as voulu me tuer? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Est-ce que tu es prêt à me demander pardon ?» Et les jeunes hommes qui ont 18 ans continuent à dire « Non, non, je vous tuerai, je veux débarrasser le monde de votre présence. » Et il lui dit « Mais ta petite amie n'est pas triste de voir que tu vas mourir. » Non, pas du tout, elle va regretter que je ne vous ai pas tué. Donc, il va l'envoyer au tribunal qui va le condamner à mort. Mais il a essayé de le sauver, voilà. Il y a des exemples comme ça étranges.
Mais c'est surprenant, d'humanité. Effectivement, il y a des milliers de soldats qui meurent à la Bérézina dans des conditions terribles, de froid, de boue, de faim, congelés. Et à côté de ça, effectivement, il se préoccupe du sort d'un jeune conspirateur, comme s'il était ému, quelque part, de sacrifier la jeunesse.
Eh bien, c'est en cela qu'il est très humain. Nous tous, si vous voulez, c'est un peu un résumé. Je crois que si sa vie nous plaît autant, c'est que nous trouvons dans sa vie un résumé de la nôtre. Alors bien sûr, on n'a pas été couronné empereur, on n'a pas gagné la bataille d'Austerlitz, on n'a pas été déporté à Sainte-Hélène. Mais nous-mêmes, on a eu une grande passion, comme une grande passion trahie pour Joséphine. Et puis on a fait un mariage de raison, comme avec Marie-Louise. Et puis on a eu des succès, on a eu beaucoup de revers. Et tout cela, dans cette vie assez courte, puisqu'il meurt à 54 ans, eh bien, on a l'impression qu'il résume. Il résume, finalement, nos existences. Et c'est vrai que c'est peut-être l'homme qui a le plus tiré parti des événements. C'est un homme chez lequel il n'y a pas de gâchis. Voilà. Il n'y a pas de gâchis. Et c'est en cela que c'est une leçon. C'est une leçon d'espérance. Pas seulement pour les jeunes gens. Moi, je crois que c'est vraiment le mémorial de Sainte-Hélène. C'est un livre à offrir aux jeunes gens de 18 ans qui sont un peu déboussolés pour leur donner des vitamines d'énergie et leur donner une espérance. Mais je crois qu'à tous les âges, vraiment lire une vie de Napoléon, c'est se redonner une sorte de l'optimisme. Voilà. On se dit, franchement, si un homme a pu traverser autant de situations difficiles, pourquoi est-ce que moi je n'y parviendrai pas ?
Alors je rappelle ce soir que nous sommes en compagnie de Jean-Marie Roire de l'Académie française pour parler de Napoléon ou la destinée, paru aux éditions Gallimard. Napoléon échappe souvent à la mort. Là aussi, ça confirme la thèse que vous posez dès le départ, que cet homme avait vraiment un destin tout tracé, tel un sillon, et qu'il devait le suivre, et que lui-même avait pleinement conscience qu'il avait un rôle à jouer pour le peuple de France et pour son pays, tout Corse qu'il était.
On a un peu oublié, oui, toutes les tentatives d'attentats qui ont été menées ou ourdies contre lui. Et ça explique d'ailleurs l'exécution du duc d'Enghien. L'exécution du duc d'Enghien n'est pas arrivée par hasard. C'est arrivé après une suite d'attentats, comme celle de Canoudal, vous savez, qui a failli provoquer sa mort, la machine infernale de la rue Saint-Nicaise, et puis également la conspiration des poignards de Serracchi. Enfin, tous les jours, il y avait une tentative d'assassinat fomentée par les Anglais.
Et par Louis. Et le Parti royaliste.
Par Louis XVIII et les Vendéens, oui. Donc, c'est un peu pour mettre un holà qu'il a décidé donc de faire enlever le duc d'Enghien. Alors, est-ce qu'il a voulu vraiment le faire exécuter ou est-ce qu'il lui attendait un sursis? Est-ce qu'il attendait une lettre qui n'a pas été transmise? Bon, il y a un mystère que j'évoque d'ailleurs vraiment en toute honnêteté, parce que il a revendiqué lui-même, Napoléon a dit « je suis responsable ». Néanmoins, on a l'impression qu'on lui a un peu forcé la main. Le parti des anciens régicides voulait l'entraîner un peu, mettre un peu de sang sur ses mains. Mais il faut le replacer dans un contexte où il y avait beaucoup de tentatives d'assassinat. Pas seulement en France, à l'étranger. On n'a pas fait toute une histoire lorsque Paul Ier a été assassiné par son fils, et l'Angleterre, qui a fait assassiner Paul Ier, qui voulait rallier Napoléon. Vous voyez, donc les assassinats, à ce moment-là, étaient un peu monnaie courante, et les exécutions, le prix d'un homme après la Révolution, dans les années qui ont suivi la Révolution, ça ne valait pas cher, un homme.
On a donc dit, effectivement, il y a ceux qui veulent essayer de mettre un terme à cette gloire napoléonienne pour privilégier le retour du roi Louis XVIII. Et à côté de cela, c'est vrai, vous écrivez, je vous cite, notamment c'est par rapport à la bataille du pont d'Arcot, donc c'est en novembre 1796, là où meurt un jeune colonel qui est un peu son ange gardien, qui quelque part, c'est lui qui ramasse, si je peux me permettre l'expression, qui prend la balle qui aurait dû toucher Napoléon partant. Alors, image là aussi, est-ce que Napoléon a vraiment traversé ce pont d'Arcole avec le drapeau?
Pas sûr. Non, il ne l'a pas traversé, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a entraîné les hommes, oui.
Et alors, très courageux. Oui. Justement, sur les champs de bataille, bien souvent, Napoléon sort indemne, et c'est les plus proches de son entourage militaire qui tombent pour lui, et il est romantique quelque part, il pleure. Il est ému quand il perd un jeune,
bien sûr,
un jeune combattant.
Et je crois que par rapport à la mort, vous savez, il disait « la balle qui me tuera portera mon nom ». C'est qu'il a un très très grand courage, dans la mesure où il croit à son étoile. Et il s'imagine que si on a peur, que si on ne domine pas la mort, eh bien on meurt. Vous voyez, il y a quelque chose de très étrange. Il affronte les boulets qui pleuvent autour de lui. Et beaucoup de généraux sont morts. Il y a eu De Seix, il y a eu Duroc, il y en a eu beaucoup de généraux, de maréchaux qui sont morts sur le champ de bataille. Mais lui-même, vis-à-vis de cette mort, c'est une sorte d'ordalie, vous savez, du jugement de Dieu.
Justement, pardonnez-moi Jean-Marie Roy, je vous cite, c'est la question que j'ai prise dans votre texte. Qu'est-ce que la vie pour lui, donc Napoléon, sinon une perpétuelle ordalie dont il est certain de sortir vainqueur?
Voilà, c'est le jugement de Dieu. C'est-à-dire, quelquefois, mais vous remarquerez, nous aussi, nous avons cette sorte de mysticisme. On se dit, ben tiens, on joue sa vie à pile ou face. On se dit, ben je veux faire ça. Et puis si je m'en sors, c'est que Dieu l'a voulu, enfin une puissance extérieure. Eh bien lui, en permanence, il joue ce jeu de l'ordalie. On a l'impression qu'il veut à chaque fois se convaincre que son étoile est bien là et continue à le soutenir.
Alors, vous parlez de jugement de Dieu, d'ordalie, donc on est quand même dans un champ lexical très religieux. Mais Napoléon n'a pas de conviction religieuse. Vous dites finalement il est athée ou alors il est proche de Rousseau, il croit à un être suprême.
Je crois qu'il pense à un être suprême. Enfin, il n'est pas très religieux. Et il est tout à fait imbibé par ses idées du 19e siècle, c'est un libre penseur. Mais en même temps, ce qu'il y a de frappant chez lui, c'est l'intérêt qu'il a pour la religion. Il considère, notamment le catholicisme, il considère que c'est vraiment la religion de la France, et il va la réinstaller,
rétablir à la faveur
du concordat. Et il va tenir énormément à ce que les gens aient des pratiques religieuses. Et comme il considérait que l'islam était très important.
Oui, parce qu'en Égypte, il dit « Je veux marier le croissant et le bonnet rouge, les droits de l'homme et le Coran ».
Oui.
C'est très moderne.
C'est très moderne. On a l'impression d'entendre des phrases comme quoi les temps n'ont pas changé. Oui. Et on reste toujours avec cette illusion de pouvoir corriger l'islam. Je crains que ce soit un peu une illusion. Mais en tout cas, même lui pensait qu'il pourrait y avoir... Vous voyez, un islam modéré.
Mais il veut bien rétablir partout où il conquiert différents royaumes ou états, il veut bien rétablir quelque religion que ce soit, parce qu'il est machiavélique. Il dit « C'est en me faisant catholique que j'ai gagné la guerre en Vendée, en me faisant musulman que je me suis établi en Égypte, en me faisant ultramontain que j'ai gagné les esprits en Italie. » Et alors, il ajoute cette condition « Si je gouvernais le peuple juif, je rétablirai le temple de Salomon. Quelle audace, quand même.
Oui, mais je pense que c'est un homme qui est très tolérant sur le plan religieux, et très tolérant d'ailleurs, c'est ça qui est étonnant, c'est un despote tolérant. C'est vraiment le despote éclairé.
Bel oxymore.
Oui, c'est vraiment le despote éclairé qui, au fond, il disait, je voudrais ramener tous les Français à la même opinion. Il en avait assez de ces clans qui avaient déchiré, ces factions, ces partis, qui avaient déchiré la France pendant les 10 années de la Révolution. Et il avait bien vu à quel point les idées peuvent être sanglantes. Les idées de Jean-Jacques Rousseau, d'ailleurs, il le dira, vous savez, sur la tombe de Jean-Jacques Rousseau, peut-être eût-il mieux valu pour le bonheur des peuples que lui et moi n'eussions jamais existé. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte à quel point les idées de Jean-Jacques Rousseau pouvaient se muer en flaques de sang. Donc, c'est un homme qui, de ce point de vue, sait très bien la valeur des idées, la valeur des religions, mais il est très tolérant. Voilà. Je crois que c'est très étonnant. Mais d'ailleurs, il est tolérant, vous le remarquerez, il essaie de rallier à sa cause aussi bien les monarchistes que les gens de la gauche, que même de l'extrême-gauche. Il est prêt à employer tout le monde sur son mérite à partir du moment où on a un grand idéal. Voilà. C'est cet idéal, je crois, qu'il veut essayer d'inculquer aux Français pour sortir de leur division. Parce que les Français restent des Gaulois, ils restent des gens très divisés, on le voit bien d'ailleurs encore aujourd'hui. C'est très difficile de tirer les Français vers une sorte d'unité. Et c'est pourquoi il ressemble, Général de Gaulle lui ressemble par bien des aspects.
Rendez-vous dans une poignée de minutes avec Jean-Marie Roire pour évoquer Napoléon. On évoquera les amours de Napoléon, les femmes qui ont compté dans sa vie, et notamment cette Polonaise Marie Walewska, très jolie femme, très jeune, avec laquelle Napoléon a eu un enfant. Serge Lama, que nous allons écouter, l'a d'ailleurs célébré dans un titre resté fameux. Voici Marie la Polonaise, que l'on écoute dans Wagon Livre, avant de retrouver notre académicien Jean-Marie Roire pour Napoléon ou la Destinée, disponible en librairie aux éditions Gallimard.
Mon ardente, ma Polonaise, ce bouquet de roses tendu, par-delà la foule mauvaise, Marie, ton regard suspendu, sous la glace de ton ascèse inaccessible, moi, je sens que sous ta peau coule la braise rouge de ton sang, Marie. Marie, départ, Marie, je pars, Marie, j'ai peur. Marie, merveilleuse, je veux graver mes lèvres en rouge sur ton mon ardente, ma Polonaise, ah, j'ai décimé tes bijoux, j'ai brisé ma montre et la chaise, et je suis tombé à genoux. Enfin tes lèvres que je baise, enfin ton ventre que je cloue. Pardonne-moi, ma Polonaise, je suis affamé comme un loup. Marie, solitaire, Marie, la terre, Marie, la mer, Marie, le feu. Je viens me soumettre, mon rêve est que tu règnes en maître sur mon
Marie la Polonaise, célébrée par Serge Lama à l'instant, dans votre rendez-vous littéraire du mercredi, c'est Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Alors, l'essai de notre invité est disponible aux éditions Gallimard. Il a pour titre Napoléon ou la Destinée. Et il nous offre l'opportunité d'évoquer la figure de l'empereur. Napoléon, Jean-Marie Roire, a toujours recherché l'unité du pays, ce qui aujourd'hui, en observant notre classe politique, est loin d'être le cas.
Ce que je crois, c'est qu'il y a une actualité permanente de Napoléon. Et voilà, ce qui m'a frappé en écrivant ce livre, d'ailleurs, c'est qu'à chaque fois, tantôt, j'arrivais des idées de Gaulle, de Sarkozy, forcément, au moment où, à l'Élysée, lorsque Sarkozy a été abandonné par Cécilia, je pensais à Joséphine, à ce terrible drame que Napoléon a éprouvé quand il a su que Joséphine le trompait, et quand elle est venue le rejoindre à
Justement,
à Milan.
Parlons des femmes un peu, justement. Oui. Alors, Joséphine de Beauharnais.
Alors là, il a été terriblement trompé.
C'est la en cela, d'ailleurs, créole.
C'est en cela, d'ailleurs, qu'il est très, très humain. C'est qu'il est, continuellement trompé, non seulement par... Surtout par Joséphine, parce que... C'est-à-dire, c'est le plus grave, parce que Joséphine, vraiment, il l'aimait, il l'avait dans la peau. C'était quelqu'un pour lequel il avait vraiment une dévotion, un amour extraordinaire, un amour fou. Il a failli se suicider, d'ailleurs, au moment de la campagne d'Italie, parce qu'elle ne voulait pas le rejoindre. Elle restait avec à la fois son amant, qui était Parras, et puis elle avait trouvé un autre amant, qui était un jeune lieutenant, qui s'appelait Hippolyte Charles. Et finalement, quand elle revient, elle arrive à Milan, eh bien, c'est en compagnie d'Hippolyte Charles, son amant. Et puis, ça va être la même chose au moment de la campagne d'Égypte. Elle va acheter la Malmaison et s'installer avec Hippolyte Charles. Et d'ailleurs, une chose que je révèle, c'est que, vous savez que si on n'a jamais joué la Marseillaise à l'époque de Napoléon, c'est parce que Joséphine avait couché avec Rouget de Lille. Et donc, il n'est pas question que Napoléon joue la Marseillaise.
Enfin, est-ce que Napoléon a été irréprochable de son côté? Parce qu'il en a quand même eu un grand nombre de maîtresses. Il y a par exemple cette Pauline Fourest. Ça, c'est formidable. Cette femme qui se travestit en hussard pour le suivre en Égypte, pendant la campagne d'Égypte, donc en 1798, ça c'est formidable.
Oui, mais ça, c'est quand il voit que décidément Joséphine a le démon dans la peau et qu'elle ne pourra jamais être fidèle et qu'elle l'a trompé à plusieurs reprises, il a pardonné. Alors, à bout de nerfs, eh bien, il décide à son tour de la tromper. Mais sinon, c'était vraiment, ça aurait été, de ce point de vue-là, un honnête père de famille, qui n'avait pas du tout envie de la tromper.
Mais en Égypte, il n'aime pas les Égyptiennes un peu grasses des arrêts.
Voilà, alors il trouve, en effet, cette jeune femme, qui a accompagné son mari, qui est un lieutenant, déguisé en hussard, ce qui est invraisemblable. On ne s'imagine pas maintenant des femmes en Afghanistan, des femmes qui suivraient leur mari déguisé en hussard. Et donc, il la met dans son lit et il renvoie le mari porter des messages, peut-être pas très importants, au directoire. Mais les Anglais sont au courant de cette histoire, donc ils arraisonnent le bateau et ils ramènent le mari à Alexandrie. Alors, il faut encore renvoyer le mari. Voilà. Ça, ce n'est pas les moments les plus élégants de la part de Bonaparte. Mais en tout cas, il va pouvoir noyer son chagrin dans les bras de Pauline Fourest.
Bon, il y a la maîtresse polonaise.
Ah oui, il y a Marie Walewska qui
Après un petit mot.
Oui, là, il y a eu un grand attachement, c'est vrai, pour elle. Mais ce n'est pas comparable avec l'amour pour Joséphine. Je pense qu'il a été satisfait de voir qu'en même temps, non seulement c'était une très jolie femme, très jeune, et en même temps qui était très douce et très tendre avec lui, et en plus, il y a eu un enfant. Donc, c'est vrai qu'il a été très heureux de voir que sa paternité était donc vérifiée, voilà, le fait qu'il pouvait avoir des enfants. Et en même temps, c'est une belle histoire, mais vous remarquerez que quand elle vient le rejoindre au moment de son jour, il ne la reçoit même pas, et quand elle vient à l'île d'Elbe, il la verra deux jours, mais il a très peur que les Autrichiens prennent prétexte de la venue de Marie Walewska pour empêcher Marie-Louise de venir. Et là, c'est le mari un peu conventionnel qui renvoie sa maîtresse.
Puis ils ont une grande différence d'âge aussi, hein. Ils ont plus de 20 ans d'écart.
Oui, mais je pense que c'est pas vous savez, il avait la même différence avec Marie-Louise. Donc je ne pense pas que ce soit le problème de la différence d'âge. Je crois que c'est le problème de la situation politique. Il espère toujours, avec ce mélange d'intérêt et de sentimentalité, que Marie-Louise et son père, l'empereur d'Autriche, vont lui venir en aide. Et puis finalement, ils vont complètement l'abandonner.
En tout cas, on peut, si vous voulez que Jean-Marie Roire vous vienne en aide pour survivre dans l'univers napoléonien, eh bien, il faut se procurer Napoléon la destinée. C'est donc de Jean-Marie Roy de l'Académie française chez Gallimard, de la Corse jusqu'à l'île de Sainte-Hélène, en passant aussi par une conversation entre De Gaulle et Malraux qui clôt le livre. Merci Jean-Marie Roy d'avoir été l'invité de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion.
Merci.
À Vézelay, vendredi dernier, 30 novembre, l'association Romain Rolland, l'association des amis de Vézelay et la maison Jules Roy proposaient une soirée de présentation du journal inédit de Romain Rolland couvrant les années 1938 à 1944, année de la mort du prix Nobel de littérature 1915. Germaniste et philosophe, Jean Lacoste a établi l'édition de ce document inédit déposé sous scellé dès 1950 à la Bibliothèque nationale et les scellés ont été levés en l'an 2000. Jean Lacoste a répondu aux questions d'Henri Mitran au cours d'une soirée passionnante dans les salons de la maison Jules Roy et à l'issue de cette soirée inaugurale, installé dans le bureau de Jules Roy, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Jean Lacoste et je lui ai demandé de nous expliquer pour quelles raisons Romain Rolland et sa femme avaient choisi en 1938 de s'installer à Vézelay.
Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui ont conjointes. D'abord, la situation politique qui rendait la place de sa femme en Suisse, Marie Kudacheva, qui était d'origine russe et donc entre guillemets bolchevique, cette situation devenait de plus en plus délicate. Des raisons économiques, des raisons politiques, parce que peut-être qu'il voulait se rapprocher de la France du Front populaire, où il était enfin une figure reconnue, une sorte de réconciliation avec la France. Et puis aussi, peut-être le désir de retrouver la terre de ses parents, de ses ancêtres, la région qu'il avait connue enfant. Mais c'est le hasard qui l'a conduit. Est-ce qu'il y a du hasard dans l'existence ? C'est le hasard qui l'a conduit à Vézelay, dans cette maison qui est aujourd'hui le musée Zervos, rue Saint-Étienne. Mais la nouvelle, c'est que Romain Rolland revient finalement avec ce journal qui décrit la vie quotidienne dans cette maison. On retrouve d'ailleurs bien des éléments, la disposition des lieux, etc. Et il décrit dans une sorte de chronique à la fois la vie quotidienne vézélienne, mais aussi les grands événements du monde et les rencontres qu'il fait de personnalités très diverses, puisque ça va de Thorez à la reine Elisabeth de Belgique.
Alors, qui défile aussi à Vézelay pour rencontrer le prix Nobel de littérature ?
Beaucoup de monde. Si lui-même sort peu, parce qu'il est âgé et malade, mais très lucide et intellectuellement vraiment admirable. Mais
en fait, il a plus de 70 ans quand il arrive.
Oui, mais il est malade surtout. Il a toujours été malade de toute façon. Il est toujours d'une santé fragile. Et donc, il ouvre sa porte avec prudence, mais à toutes sortes de gens. C'est très touchant parce que ça va de personnalités de la vie politique, puisqu'il était longtemps compagnon de route du Parti communiste au début. Des ans 38, il reçoit Thorez, Duclos, bon, mais aussi, comme je disais, la reine Elisabeth de Belgique, qui se souvient des propos qu'il avait écrits sur la Belgique en 14-18. Bon. Mais aussi des écrivains, des éditeurs, comme Charles Vildrac ou René Arcos, qui sont des amis très proches. Et puis aussi, ce qui est assez très touchant, des gens de la région. Il lit, lui, ce grand prix Nobel, cet écrivain ce consacré. On n'imagine pas sa réputation internationale à l'époque. Hein. Il avait été reçu en grande pompe par la Russie de Staline, mais partout il était connu et édité. Eh bien, il a des rapports très chaleureux avec des gens de la région. Par exemple, un certain Marcelot, qui est un pépiniériste de Clamcy, le boulanger Crochet, qui est en bas de Vézelay, des gens, et puis de jeunes gens, par exemple, de Migennes, qui deviennent un jeune couple de militants, musiciens en l'âme et qui deviennent de véritables amis avec lesquels il a une attitude presque paternelle. Donc ça, c'est très, très touchant, cette porte ouverte malgré cette curiosité des gens qui transcrit les conversations.
Alors vous dites aussi Vous l'avez dit ce soir, la mère de Romain Rolland se prénommait Madeleine. Ce n'est pas en tout cas l'esprit qui a attiré Romain Rolland sur la colline.
C'est compliqué parce que il est par exemple très curieusement indifférent à la basilique dont il parle presque jamais. Mais en même temps, la question religieuse, la question de la foi, la question disons de la spiritualité est au cœur même de ses réflexions dans ce journal. Et je dirais même qu'ils étaient au cœur du ménage Rolland, puisque sa femme Macha, cette princesse russe bolchevique et donc orthodoxe à la fois, se convertit en fin 39, début 40. Elle se convertit, elle rencontre Claudel, elle lit des ouvrages de mystiques, et Romain Rolland se trouve dans sa maison même, dans son foyer, affronté à la question de la conversion et de la foi, une question vers laquelle il garde toujours il essaie de rester rationaliste, mais en même temps il s'intéresse à la question religieuse.
Vous avez parlé ce soir du curé doyen de la basilique, oui. Le d'Espinet, oui. Qui était un curé plutôt d'extrême droite, puisque en fait il tenait en chair contre la Troisième République. Néanmoins, il y a eu rencontre entre Romain Rolland et ce curé d'extrême droite, ce qui montre l'ouverture, l'attachement humaniste et profondément humain de Rolland avec tout être humain, quel qu'il soit, dans sa diversité.
Absolument, ça c'est une des curiosités, des aspects intéressants et je dirais modernes de ce journal. C'est d'un côté, effectivement, il raconte les prêches tonitruants de Despinet contre la Troisième République, les instituteurs laïcs et la disparition de la foi. Et en même temps, lui qui était un adversaire politique, si l'on veut, on sent qu'il discute de théologie, si l'on veut, enfin, ou du moins de questions de la religieuse avec ce Despinet. Et comme il parle avec lui de l'histoire de Vézelay, par exemple. Donc on retrouve là cette complexité qui fait sa personnalité quelqu'un de très attachant. D'un côté, cette grande rectitude morale qui lui permet de définir vraiment ce qu'il est, et en même temps l'intérêt pour l'humanité.
Alors,
toujours la porte ouverte.
Comment réagit Romain Rolland face à l'occupation allemande? Effectivement, lui, l'amoureux de la vieille Allemagne, l'amoureux des musiciens allemands très proches de l'Allemagne, dans quel état d'esprit est-il, sachant la France occupée, et une France aussi coupée en deux, entre une zone occupée et une zone non occupée?
Une grande tristesse d'abord.
Le pacifiste qu'il est, forcément, a vu échouer...
Le pacifiste qu'il a été, s'est rendu à l'évidence et était beaucoup plus anti-munichois, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire qu'il avait renoncé en partie à cette espèce d'illusion de... pacifiste, sans oser aller jusqu'à prôner la guerre, parce qu'il n'était pas, c'est pas son âge et sa condition qui lui permettait honnêtement d'aller prôner comme ça la fleur au fusil et, comme disait Simone Veil, de graisser les godillots. Mais face à l'occupation allemande, il a des sentiments, comme vous dites, je dirais pas compliqué, mais d'un côté, il reste attaché à cette vieille Allemagne des musiciens, des poètes, qui vraiment constitue une dimension importante de sa culture. Mais en même temps, d'un autre côté, il se fait le chroniqueur de toutes les exactions du régime.
Mais est-il patriote? A-t-il un sentiment français très prononcé?
Il le dit un jour quand il passe devant le Sénat, où il y a une immense croix gammée, et il dit « je ne suis pas très patriote » au sens où on l'entend, mais ça me fait mal de voir cela. Il est attaché à la Troisième République. Il écrit à Daladier un mot en disant, à la déclaration de guerre, en 39, il envoie un message à Daladier avec d'autres qui invoque la patrie en danger, Valmy, la Révolution française. Donc il ne se veut pas patriote au sens où on peut l'entendre, mais attaché à son pays aussi, ça c'est évident. Mais encore une fois, il y a toujours chez lui peut-être la nostalgie, peut-être un peu naïve, vu les circonstances, mais peut-être aussi un peu prophétique, vu l'avenir, que derrière le régime nazi qui est voué à la guerre, peut-être qu'un jour on retrouvera ce qu'il appelle la vieille Allemagne, Et quand il reçoit, parce qu'il reçoit aussi des officiers allemands qui demandent à le voir, c'est pas lui qui fait la démarche naturellement, il espère toujours deviner en eux un peu cette une raison d'espérer. Pas toujours fondée, mais ça fait partie de cette ouverture qu'il essaie de pratiquer. Mais enfin, il faut dire qu'il n'a jamais, par ni aucun écrit, ni par aucun acte, ni par aucune déclaration publique, été compromis dans ce qu'on appelle la collaboration au sens strict. Même si il a rêvé un moment, quand la France s'est effondrée en juin 40, il a manifestement rêvé de quelque chose qui serait enfin, par-delà les armes, par-delà la guerre, une réconciliation franco-allemande. Mais ça ne dure que quelques semaines, en fait. Les dures réalités de l'occupation brutale.
Dans son journal, Romain Rolland parle de camps de concentration.
Oui, à la fin, oui. D'ailleurs, dans son journal est scandé. Enfin, c'est un ouvrage assez considérable, plus de 1000 pages. Mais je veux dire, l'ouvrage est scandé par des notations sur la persécution des Juifs en France. D'abord, le statut des Juifs, le premier statut, le second statut, les persécutions. Et à la fin, il mentionne effectivement cette persécution des Juifs et cette annihilation qui était connue, en fait, qui était connue. Donc, peut-être pas dans son ampleur monstrueuse, mais qui était connue. Et donc, c'est un des éléments du drame que ce journal finalement illustre. C'est que d'un côté, encore une fois, la vieille Allemagne à laquelle il est attaché par tant de fibres, et il est obligé de renoncer un peu à cela devant l'horreur qu'il pressent, qu'il décrit par moments.
À Vézelay, Romain Rolland se sent persécuté par Flandin. Vous pouvez expliquer qui est ce Flandin ?
Ce Flandin avait été le chef de la droite parlementaire contre le Front Populaire. C'était un homme qui avait une très belle carrière ministérielle, qui sera aussi sous Pétain un bref moment, je crois, président du Conseil, du moins. Donc c'est un représentant, disons, de la droite qui n'était pas l'extrême droite. Mais c'est assez amusant, là, on entre dans le domaine de l'anecdote. C'est vraiment, il a l'impression que celui-ci le persécute, fait ouvrir son courrier. Et je pense que là, c'est du domaine du fantasme d'un homme qui alors ça, c'est une réalité, qui n'a pas été accueilli à Vézelay avec qui a été accueilli, disons, avec certains soupçons. Puisque quand il arrive, il est encore une fois avec la réputation d'être un compagnon de route du Parti communiste, alors que très rapidement, déjà en 1938, il se détache un peu, mais il a toujours le sentiment que le parti est un rempart contre le communisme. Et lors des 1939, évidemment, c'est une rupture profonde. C'est d'ailleurs pour ça aussi que son journal n'a peut-être pas été publié si rapidement, parce qu'il y a des pages très sévères sur le Parti communiste, oui. Et sur la politique stalinienne du pacte germano-soviétique.
On se rappellera cette photo où l'on voit Romain Rolland aux côtés de Staline, par exemple, en 1935.
Oui. Voilà, c'est ça. À l'époque du journal, ça c'est fini, c'est totalement fini. Il s'est détaché de la politique, ça c'est certain.
Alors, on ne peut pas dire que Romain Rolland prenne vraiment position pour ou contre un camp, quel qu'il soit, sous l'occupation. En revanche, il est un peu effrayé par l'audace de sa bonne Odette qui essaie de faire des petits actes de résistance.
Oui, lui-même n'est pas résistant, que je veux dire, le sens, c'était l'affaire des jeunes gens. Mais manifestement, il a des contacts avec les FFI et toute la résistance de la région. Et même sa bonne s'engage dans des aventures très, très courageuses. Mais lui-même est un peu à distance. Il faut bien reconnaître, il faut être. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'il m'a malgré tout assisté à la fois au combat de l'arrivée des Allemands dans Vézelay.
C'est août 44.
Oui, des pages très, 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 très impressionnantes, grandioses sur les prisonniers français, sur le silence qui pèse, sur la foule des prisonniers, puis l'arrivée des Allemands, etc. C'est le sentiment d'étonnement de voir ces deux, trois motocyclistes allemands arriver en avant-garde. Et puis alors, à la fin, effectivement, quand les Allemands repartent, là, il y a des combats avec le maquis, dont il est un témoin en première loge, puisque ces combats ont eu lieu au bas de Vézelay, là, et lui est à quelques... Enfin, véritablement aux premières loges.
Jean Lacoste, un mot rapide avant de nous séparer. À la mort de Romain Rolland, le 30 décembre 1944, Romain Rolland meurt à Vézelay, dans cette maison qui, vous l'avez répété tout à l'heure, abrite actuellement le musée Zervos. Un certain nombre d'intellectuels, et notamment Louis Aragon, estiment que Romain Rolland aurait toute sa place au Panthéon.
Oui, il aurait eu sa place très légitimement, d'abord parce que c'est un écrivain important. À l'époque, il était tout à fait reconnu au plan international et surtout, il était un peu le symbole de la France réconciliée dans la résistance, c'est-à-dire ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. Malheureusement ou heureusement, à ce moment-là, la droite a dit très bien, Romain Rolland au Panthéon, c'est une belle figure, mais on pourrait y mettre Péguy, ce qui était légitime aussi, plus patriote, si l'on veut, au sens étroit du terme, mourir pour la patrie. Et puis, de certains mouvements proches du MRP, on dit y a Bergson aussi, c'est très légitime aussi. Ce qui fait que, devant l'affluence des demandes, le projet est tombé à l'eau. Ce qui fait que maintenant, il repose, comme il le souhaitait d'ailleurs, dans le village de Brest, près de sa famille, et c'est très bien comme cela.
Jean Lacoste à notre micro, à l'origine de la préparation et de l'édition du journal de Romain Rolland, 1938-1944, le journal de Vézelay, 1200 pages, est enfin disponible aux éditions Bartilla. Quelques informations culturelles, toujours autour de Romain Rolland. Le samedi 8 décembre prochain, à la médiathèque de Clamecy, l'association Romain Rolland, présidée par Martine Liégeois, vous propose une conférence du professeur Francis Claudon autour du thème « Romain Rolland et Franz Liszt, liaison secrète, relation impossible ». C'est à 15h samedi prochain à la médiathèque de Clamecy. Le 8 décembre, toujours à 17h cette fois-ci, mais c'est du côté de Saint-Florentin, les après-midi de Saint-Flo proposent une conférence avec projection vidéo sur les lettres retrouvées, aspects de la vie quotidienne des moines à Pontigny au XIIIe siècle. C'est une projection vidéo et une conférence assurée par Jean-Luc Benoît. Cela aura lieu donc à la MAIP, 7 rue Île-de-France, à Saint-Florentin. Et puis, événement très important, le samedi 22 décembre prochain à Vézelay, la librairie L'Or des Étoiles accueille à partir de 15h Christian Bobin pour une rencontre exceptionnelle autour de son dernier livre, L'Homme Joie, aux éditions de l'Iconoclaste. Réservation vivement conseillée au 03 86 33 30 06, 03 86 33 30 06. Je vous donne pour ma part rendez-vous mercredi prochain, 12 décembre à 21h. Nous accueillerons Ignacio Catalan pour son roman médiéval « Dans la lumière d'Isiatis » paru aux éditions de l'Armançon. Nous y évoquerons la vie des trouvères au Moyen-Âge et le mystérieux culte des Vierges Noires. C'est à ne pas manquer, mercredi prochain à 21h à bord de Wagon Livre. Excellente fin de soirée sur Radion. Merci de nous avoir reçus chez vous. Au revoir.